Voilà, alors bonjour à tous, on s'est déjà salués. Je suis heureuse d'accueillir alors les premières années du CIF et puis un certain nombre des animateurs, des anciens, des très anciens, et puis un certain nombre de nouveaux venus qui sont là pour la journée et qu'on est heureux d'avoir. Alors pour cette journée, vous avez reçu une petite lettre vous disant les buts de la journée. Le but de la journée, je partage l'écran. Vous allez le voir. Voilà, c'est donc d'introduire, finalement, l'introduction au Nouveau Testament, mais surtout le lien avec l'Ancien Testament. D'abord, commençons par ce lien avec l'Ancien Testament. Je retourne en arrière parce que je suis allée trop vite, évidemment. J'ai des manettes qui ne marchent pas bien. Alors, excusez-moi. Oh là là, elles font qu'avancer, pas reculer. Non. Bon, j'ai des ennuis avec mon PowerPoint, c'était prévu. J'ai essayé de reculer. Voilà, attendez. Non, next. Prévu. Ça ne veut pas reculer. Bon, vous allez avoir toute l'histoire et puis je vais être obligée de recommencer au début. Alors, je vais arrêter le partage et recommencer. Excusez-moi. J'ai eu des ennuis hier avec. Peut-être avec celui-là, ça sera mieux. Non, c'est pas celui-là. Alors, c'est l'autre. Ah là là.
Attends.
Bon. Excusez. Non, il ne faut pas s'énerver. Vous avez raison. Surtout ne pas s'énerver. Voilà. Bon, j'arrête ce partage-là. Et c'est sur l'autre que je vais revenir. Bon. Mais si je pouvais reculer. Voilà. Partager. Pourquoi il ne veut pas revenir en arrière? Excusez-moi, j'y arrive pas. Je croyais qu'il y avait un ennui. Arrêtez le partage. Bon, vous me donnez une petite minute pour arriver à m'y retrouver. Avec ces écrans qui ne veulent pas se. Ils veulent.
Si vous cliquez juste sur la diapositive à gauche,
Ouais, vous croyez qu'elle va s'ouvrir? Ah
ça
non.
c'est la première, la deuxième, puis la troisième,
Oui,
celle du
mais il ne
début.
veut pas me montrer slideshow, il ne veut pas me les montrer. Vous les regardez comme ça, mais c'est un peu dommage. En tout cas, bon, on va quand même essayer d'avancer. Voilà. On va démarrer comme ça. J'aurais voulu que ça soit en grand, mais vous le voyez quand même. Si j'arrive à le réparer tout à l'heure à la pause, là, je vais avoir des ennuis tout le temps. Bon, allez. Je redémarre. On va prendre juste la diapositive comme ça. Voilà. Est-ce que. Oh là là. Il y a plusieurs partages d'écran l'un sur l'autre, c'est pour ça. Arrêtez le partage. Non. L'application, fermez ça. Voilà. Alors, excusez-moi, on va essayer de partir comme ça. Non, là, ça ne bouge pas. Vous voyez ce chapiteau? Est-ce que tout le monde le voit malgré le fait que l'écran est pas mal placé,
Oui.
que ce n'est pas assez gros? Alors, c'est un chapiteau de Wesley que vous connaissez peut-être et qui représente le passage de l'Ancien au Nouveau Testament. Ce n'est pas évident à l'œil nu, mais le personnage de gauche, c'est Moïse, et il verse du grain, du beau grain, dans le moulin que tient le personnage de droite qui est Saint Paul. Peut-être reconnaissable, Paul reconnaissable à sa barbe. Et le moulin qui va transformer le grain en farine, le grain de l'Ancien Testament en farine du Nouveau Testament, il a une forme crucifère, c'est la croix. Voilà. Et donc c'est bien ça représente, ça a une représentation assez extraordinaire, mais ça veut bien dire quand même l'étroite liaison entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament fait du nouveau avec ce qu'il reçoit de l'Ancien. Il y a impossibilité, à mon avis, de comprendre le Nouveau Testament si on n'est pas déjà entré dans l'Ancien pour voir finalement quel est tout cet ensemble de matériaux. En fait, ce sont des attentes, des promesses, des professions de foi et la croyance dans le Dieu d'Israël qui est présente dans l'Ancien Testament. Alors, au centre, ce qui fait le joint, évidemment, c'est la personne du Christ. Je parle de cette personne du Christ que les premières années sont en train d'étudier. avec Bernard Classen, avec cette citation de Paul de Tarse, donc le Paul qu'on a vu tout à l'heure, 20 ans ou 24 ans après la mort de Jésus de Nazareth, où il écrit à ses Galates cette phrase assez extraordinaire: Dieu a envoyé son Fils. Voilà, il repart d'en haut, c'est Dieu qui a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Et là, vous avez déjà le grand écart qui va au fond animer toute la foi chrétienne et notre Nouveau Testament entre cet envoi de Dieu, voilà, avec le Fils qui est du côté de Dieu, et le fait qu'il est né d'une femme, toutes les femmes, donc c'est un humain, il fait partie de notre humanité, et il est né sous la loi, ça le situe géographiquement et historiquement dans une province de l'Empire romain, au sein du peuple juif, et marqué par une histoire de 500 ans d'occupation et d'espoir déçu. Et donc ça m'amène dans cette première partie de la journée donc une journée en quatre temps, cette première partie de la journée à renouer avec ce que nous avions vu dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire la naissance de ce qu'on appelle le judaïsme, même si le peuple d'Israël, les rois, c'est bien avant, mais nous nous étions arrivés à ce moment de l'exil, au 6e siècle avant Jésus-Christ, entre 588 pour être précis et 538, à ce moment de l'exil où le judaïsme va naître en tant que religion, alors qu'il y avait avant la religion d'Israël. Pourquoi? Parce que dans l'exil, on l'avait dit, et je le répète, il y a eu un traumatisme énorme. Traumatisme énorme, puisque le peuple de Dieu a tout perdu. Sa terre, chassée, emmenée en exil pour une partie des élites, les artisans, les intellectuels, les prêtres, le roi, la cour, etc., emmenée en exil à Babylone, le pays occupé et Jérusalem brûlée, sinon rasée, le temple détruit. Donc on a perdu tout ce à quoi on tenait et surtout, au niveau religieux, l'idée est, mais Dieu nous aurait-il abandonnés? Est-ce que notre Dieu est le vrai? Puisqu'on est vaincu, puisqu'on a tout perdu, puisqu'il n'y a plus de culte, puisqu'il n'y a plus de grand prêtre, puisqu'il n'y a plus de roi, est-ce pas que notre Dieu nous a abandonnés, que les vrais dieux, ce sont les dieux des Babyloniens? C'est l'idée à l'époque, les dieux du vainqueur, ce sont les bons. Le dieu du vaincu, eh ben, il est vaincu, hein. Dans cet exil, où on s'installe, c'est pas, on n'est pas déporté, il y a pas de, il y a pas de, sur, il y en est mort en chemin, hein, le chemin est si long qu'il en est mort un bon nombre. Enfin, on s'installe, on se remet à vivre, parce que c'est, les Babyloniens ont accepté cela et s'est accueilli. Il y a même l'ancien roi qui mange à la cour du roi de Babylone. Mais la crainte, désormais, c'est effectivement de se tourner vers les dieux des vainqueurs et de se perdre, et de perdre la religion d'Israël. Un petit nombre, un bon nombre, surtout ceux qui étaient anciennement des prêtres, des scribes, des lettrés, ont réagi de façon très forte, une réaction identitaire. Non, il faut conserver notre identité et notre foi au Dieu d'Israël. Et alors se développe ce mouvement extraordinaire qui est, au fond, l'affirmation du Dieu unique. Notre Dieu n'est pas le Dieu des vaincus, parce que c'est lui le seul. Et il est le Dieu non seulement sauveur, mais créateur. Et il va, au fond, être au-dessus d'eux et assimiler et être le seul parmi tous ces dieux babyloniens dont ces gens-là affirment, mais ils ne sont rien, ils sont des idoles. Et cette identité va s'affirmer à travers la pérennité, parce qu'elles existaient avant, ou la transformation, ou l'invention, d'un certain nombre de fêtes, la fête de Kippour, par exemple, le renouvellement de l'Alliance. Chaque année, puisque nous avons été indignes de l'Alliance et punis pour cela, on va se repentir et la renouveler parce que Dieu la renouvelle sans cesse. Le sabbat, qui devient la fête tous les 8 jours, la fête de la souvenir de la Pâque, qu'on remet à l'honneur à ce moment-là. Et puis, évidemment, les Écritures, c'est à ce moment-là qu'on rassemble tout ce qu'on avait rapporté, les vieux souvenirs qu'on relit, etc. Et c'est à partir de 538, et je vais faire beaucoup d'histoire ce matin, excusez-moi, mais il faut faire de l'histoire. À partir de 538, où l'Empire babylonien tombe, d'ailleurs pratiquement sans violence, hein, le roi perse qui arrive d'Orient et qui a déjà conquis une énorme un énorme empire, prend Babylone sans violence. Mais ce roi perse Cyrus, que le prophète Isaïe va appeler Messie. Dieu dit de Cyrus et Isaïe, Cyrus mon Messie. Pourquoi? Parce qu'il vient libérer mon peuple. Alors, libération, c'est peut-être pas une libération complète, mais en tout cas, le droit de ceux qui le veulent de rentrer chez eux et de pratiquer leur religion. Alors, un petit regard sur cet empire perse énorme de Cyrus. Vous n'y voyez pas bien, je suis désolée. Ce que simplement je veux vous montrer, c'est l'immensité de cet empire qui va depuis les frontières de l'Inde jusque, à la Libye, jusqu'à la Libye et jusqu'aux abords de la Grèce. Babylone se trouve ici, du coup je peux pointer. Et pour rentrer à Jérusalem, il faut remonter tout le pays le long de l'Euphrate, passer par à peu près par Ninive ou par Mossoul et redescendre la côte. Un immense voyage que ceux qui vont partir vont vivre comme un exode, un nouvel exode, une nouvelle marche vers la liberté et mieux qu'un nouvel exode, une nouvelle création. Alors, je vous lis ce texte magnifique d'Isaïe. Vous verrez que tout est déjà repris. On reprend les vieux souvenirs qui s'écrivent dans l'Exode et l'idée de la création avec l'idée que Dieu recrée toujours du nouveau. Et c'est un texte étonnant qui dit aussi très fort le lien de l'Ancien et du Nouveau, parce que le Nouveau Testament est déjà là. Le passé fonde l'avenir, c'est lui qui fonde le nouveau, et en même temps, le nouveau va être infiniment différent du passé, au point qu'on va quasiment pas l'oublier, mais se tourner uniquement vers l'avenir. Je suis le Seigneur, votre saint, celui qui a créé Israël, votre roi. Ainsi parle le Seigneur, lui qui procura en pleine mer un chemin, un sentier au cœur des eaux déchaînées. Ça, c'est la reprise de l'Exode. Lui qui mobilisa chars et chevaux, troupes et corps d'assaut tous ensemble, sitôt couché pour ne plus se relever, étouffé comme une mèche et éteint. Voilà le souvenir de la traversée de la mer ou des étangs. Ne vous souvenez plus des premiers événements, ne ressassez plus les faits d'autrefois. Voici que moi je fais du neuf qui déjà bourgeonne. Ne le reconnaîtrez-vous pas? Vous voyez, à la fois on oublie le passé et dans le neuf, on le reconnaît et on le recomprend et on le comprend à cause de l'ancien. Oui, je vais mettre en plein désert un chemin dans la lande, des sentiers. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, car je procure en plein désert de l'eau, des fleuves dans la lande, pour abreuver mon peuple, mon élu, peuple que j'ai formé pour moi et qui redira ma louange. Voilà le texte qui dit la nouveauté extraordinaire. Alors, nouveauté extraordinaire, on est vers entre 538 et 520. Le retour va pas se faire en bloc, c'est des petits groupes qui rentrent et tout le monde ne rentre pas, puisqu'à Babylone, une bonne partie du judaïsme va rester, faisant partie de cette grande part de la diaspora juive et continuant d'ailleurs à vivre la religion d'Israël. Mais c'est vers Jérusalem qu'on se tourne et là, l'installation est difficile. On est parti depuis 70 ans. Ceux qui travaillaient la terre, les paysans, sont restés sur place, sous la botte babylonienne, donc pauvres, payant l'impôt, et ils se sont mélangés, eh bien, avec les populations environnantes qui d'ailleurs se sont précipitées, Édom en est la preuve, pour piller les restes de la petite Judée de Jérusalem qui avait été attaquée, détruite et brûlée par les Babyloniens. Donc, ils ont fini par s'entendre avec ces populations, se marier et choisir des femmes qui ne croient pas au Dieu d'Israël. C'est toujours par les femmes, évidemment, que le malheur arrive. Donc, la tension va être grande entre ceux qui arrivent, qui réclament, se réclament d'une religion renouvelée, pure, identitaire, et ceux qui sont sur place, qui d'ailleurs ont pris la place, donc il va falloir qu'ils se poussent un peu, et puis qui, eux, ben, ont pactisé avec des religions plus ou moins de Baal, de la nature, d'idolâtrie. Des questions vont se poser. Il va falloir reconstruire le temple. Les Perses vont aider et reconstruire les remparts de Jérusalem à travers des personnages qui vont, nommés ou venus de l'Empire perse, aider à cela, Esdras et Néhémie. Et ce qui va prendre de l'importance, puisqu'on est retourné à Jérusalem, mais on est quand même sous le pouvoir perse qui autorise la religion qui autorise une certaine autonomie à condition de payer l'impôt. Ce qui va prendre de l'importance, il n'est plus question de roi évidemment, ce sont les grands prêtres. Et ce qui va se créer, c'est vraiment sur place une religion locale autour des grands prêtres et du culte. Voilà. Et c'est cette religion-là qui sera quand même celle dans laquelle, 500 ans plus tard, Jésus de Nazareth va apparaître. En même temps, cette religion est aussi autre, puisque il y a, loin, à Babylone, mais aussi déjà en Égypte et un peu partout, un judaïsme de la diaspora, la dispersion, qui lui est beaucoup moins centré sur le temple et sur les rites, même si on essaye d'y monter deux ou trois fois par an pour les grandes fêtes. Ce judaïsme de la diaspora, il va se développer déjà autour des synagogues. Alors, qu'est-ce qui réunit tout ça? L'identité du judaïsme, qui va rester la même pendant 5 siècles, jusqu'à la naissance du christianisme et jusqu'à la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, on peut la résumer ainsi. La foi au Dieu unique, et c'est bien à cette époque, pendant l'exil, que le deuxième Isaïe, la deuxième partie du livre d'Isaïe, des chapitres 40 à 55, après ça s'ajoutera jusqu'à 66, affirme et martèle la foi au Dieu unique. Avant, il était quelque part là, mais il était surtout le Dieu au-dessus de tous les autres dieux. Non, l'affirmation maintenant, et vraiment les textes sont à la fois superbes et très forts. Moi, je suis Dieu, je suis, dira le texte grec, et il n'y en a pas d'autre. Voilà. Je ne partage ma gloire avec aucun autre. Et ça, c'est martelé. Et la marque qu'on a, les marques qui font qu'on appartient à ce Dieu-là sont nombreuses et sont des marques évidemment de séparation. Va apparaître de plus en plus la circoncision le huitième jour. Il y avait des peuples, pas les Babyloniens, qui circoncisaient déjà leurs enfants, leurs jeunes. C'était un rite d'adolescence à 13 ans. Mais la circoncision du petit enfant, du nouveau-né, au huitième jour, va se mettre en place petit à petit et devenir à travers le temps, mais pas tout de suite, un signe identitaire. Par contre, ce qui sépare tout de suite, ce sont les règles de pureté alimentaire. Des nourritures qu'on mange, des nourritures qu'on ne mange pas, surtout au niveau de la viande. Et la viande étouffée n'est pas mangée. Il faut la vider de son sang, le sang appartenant à Dieu, le sang c'est la vie. Et puis, on observe des fêtes, le sabbat, le septième jour, et des grandes fêtes de pèlerinage tout au long de l'année. Et surtout la grande fête, désormais très très importante, du Kippour. Donc ça, c'est au niveau des rites. Et puis, l'autre marque identitaire qui va permettre aussi de faire un lien plus fort avec la diaspora, c'est la rédaction de la loi, la Torah, qui s'est largement développée pendant l'exil, qu'on va mettre au point. Donc, je vais revenir sur la loi, mais pour le moment, on a à Jérusalem et alentour, le temple au centre, les grands prêtres, le culte, les sacrifices, au point que le livre de l'Exode va, dans les rédactions qui en sont faites à cette époque-là, considérer ce peuple comme un royaume de prêtres. Ça, le Nouveau Testament s'en souviendra. Alors, ensuite, et en même temps, on rédige les Écritures. En exil, on a apporté déjà des choses rédigées, notamment probablement ce rouleau du Deutéronome qui avait été trouvé ou écrit par le grand roi Josias en 622 avant Jésus-Christ dans le temple. Des rouleaux de la loi qui viennent en partie des traditions du royaume du Nord qui avaient été détruits. On les avait emportés, on les a relus, on a relu tout ce qu'on avait, on a repris les vieilles traditions, on a écrit et on a surtout essayé de mettre au point, et ça va se faire au retour essentiellement, les 5 livres de ce qu'on appellera la loi, la Torah, qui pour le peuple juif est au centre. Nous, c'est au début, mais dans la lecture juive à la synagogue, la Torah est au centre. Cette Torah, j'en avais déjà parlé au niveau de l'Ancien Testament, elle est dans le cours sur l'Ancien Testament. Elle est le produit d'un consensus, et même d'un admirable consensus, parce que l'idée est qu'il faut respecter toutes les traditions qui parlent évidemment du même Dieu d'Israël, sous des noms souvent divers, hein, parce que c'est elle le grand Dieu, c'est Elohim, c'est le nom qu'on prononce pas, YHWH. Mais l'idée qu'il faut réunir les diverses traditions parce que, eh bien, de Dieu, on ne peut pas parler en un seul courant, en une seule parole. On ne sait jamais tout sur Dieu. Il faut mettre en parallèle toutes les découvertes, on pourrait dire humaines, mais pour le moment-là, toutes les découvertes de ce peuple, toutes les traditions passées, pour arriver à quelque chose qui est en dialogue parfois tendu, mais qui dit finalement les différentes facettes de ce Dieu qu'on essaye toujours de mieux connaître, sans évidemment jamais pouvoir le dire pleinement. En gros, il y a deux grands courants qui se sont retrouvés, qui se sont déjà rencontrés, qui ont dialogué en exil et qui se retrouvent là. Le courant sacerdotal, les grands prêtres et les prêtres, alors en gros, c'est les lettrés, hein, bien sûr. Les grands prêtres et les prêtres qui étaient partis en exil et qui vont écrire avec des documents du passé la grande histoire sacerdotale, Genèse 1 par exemple, etc. Et puis, et l'Exode. Et puis, un autre courant, qui ne sont pas des prêtres, qui sont plutôt des lettrés proches des prophètes. En tout cas, ils reprennent beaucoup les textes prophétiques, moins, j'allais dire, poètes que les prophètes. Mais ce sont ceux qu'on appelle les deutéronomistes, parce que ce sont eux qui ont essentiellement écrit et rassemblé les diverses parties du Deutéronome, avec beaucoup de traditions qui viennent du royaume du Nord. Ces deux courants se sont alliés pour au fond fondre ensemble, tout en gardant chacun leur identité, les différents récits du passé, les récits des patriarches, la tradition surtout deutéronomiste qui est la tradition de l'Exode, et puis l'arrivée sur la terre, etc. Et au fond, on en tire les cinq livres, chacun avec sa différence et ses nombreuses tensions internes, que sont les livres de la Torah. Vous le savez, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Et on va ainsi proclamer la loi en rejouant ou en jouant ce qui a peut-être été joué dans un lointain, lointain passé, mais en tout cas ce qu'on raconte désormais, en rejouant la grande scène du Sinaï, où Dieu donne la loi à son peuple et où Moïse, au chapitre 19 de l'Exode, lit la loi au peuple. Cette grande scène, on va la rejouer dans, elle est écrite, elle est racontée dans le livre de Néhémie, au chapitre 8. Et je vous en lis quand même un petit passage, parce qu'on y voit des choses très intéressantes sur cet accord des différents courants dont je vous parlais tout à l'heure. Là, on le voit sur pièce, sur un détail, hein, c'est beaucoup plus ample, mais quand même. Alors, je vous lis le texte. Tout le peuple, comme un seul homme, se rassembla sur la place qui est devant la porte des eaux. Et ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait prescrite à Israël. Le prêtre Esdras, alors tout à l'heure il était scribe, et maintenant il devient prêtre. Chaque courant est honoré. Le prêtre Esdras apporta la loi devant l'assemblée où se trouvaient les hommes, les femmes, et tous ceux qui étaient à même de comprendre ce qu'on entendait. C'était le premier jour du septième mois, il lut dans le livre, sur la place qui est devant la porte des eaux, depuis l'aube au milieu de la journée, en face des hommes, des femmes et de ceux qui pouvaient comprendre. Les oreilles de tout le peuple étaient attentives au livre de la loi. Esdras ouvrit le livre aux yeux de tout le peuple. Et lorsqu'il l'ouvrit, tout le peuple se tint debout. Esdras bénit le Seigneur, le grand Dieu, voyez les deux noms. Tout le peuple répondit Amen, Amen. Et ensuite, il y a une série de noms que je ne vous lis pas. J'en ai mis quelques-uns, mais bon, il y en a au moins une quinzaine. Les Lévites expliquaient la loi au peuple et le peuple restait debout. Ils lisaient dans le livre de la loi de Dieu de manière distincte, en donnant le sens, et ils faisaient comprendre ce qui était lu. Je m'arrête là-dessus parce que c'est à Jérusalem, dans la proclamation de la loi, le moment où on crée, au fond, la vie synagogale. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à la synagogue, il n'y a pas de culte. On lit le texte de la loi, c'est tout. Et puis après, on lit les prophètes, et puis après, on prêche. Mais déjà à l'époque du retour d'exil, Et d'Esdras, on est peut-être beaucoup plus tard, vers 450, 430 avant Jésus-Christ. Personne dans le peuple ne comprend plus l'hébreu, parce qu'on parle araméen avant de parler 200 ans après grec. On parle araméen qui est la langue qu'ont adoptée les Perses comme langue diplomatique, comme langue du commerce, comme langue de tout l'empire perse, puisque on a des textes qui viennent de groupes juifs du bas de l'Égypte éléphantine, du Haut Nil, éléphantine, qui sont en araméen. Donc les gens comprennent l'araméen, mais l'araméen, c'est à l'hébreu ce que, bon, on va, excusez-moi les hispanisants et ceux qui viennent du Portugal, en gros, l'espagnol au Portugal, au portugais. C'est-à-dire, si vous savez une langue, vous ne savez pas nécessairement l'autre. Vous reconnaissez des mots, vous reconnaissez des choses. Donc, on ne comprend pas. Et il faut quelqu'un pour traduire. Cette idée de la traduction, elle va se généraliser dans les synagogues. Et on aura dans la synagogue des gens qui vont chaque fois traduire en araméen ce que le président, celui qui va ouvrir la séance, lit en hébreu. Il lit quelques lignes en hébreu, on traduit en araméen. Pour la loi, c'est ligne à ligne, verset à verset. Pour les prophètes, ça sera morceau par morceau. Et c'est ça qui a donné naissance à cette grosse littérature qui est le Targum, la loi expliquée, que nous avons maintenant parce qu'elle était orale et qu'elle a été mise par écrit après Jésus-Christ, vers 150. J'insiste là-dessus, parce que nos évangélistes connaissent le Targum. Et souvent, quand ils lisent, quand ils sont hébraïsants, et il y en a eu des hébraïsants, et les auteurs du Nouveau Testament sont surtout de langue grecque, mais beaucoup connaissent un peu les traditions en hébreu, eh bien, ce qu'ils lisent, c'est le Targum. Et le Targum a certainement aussi été transposé en grec. Et donc, l'Ancien Testament que les gens du Nouveau Testament lisent, c'est souvent cet Ancien Testament expliqué. J'ajoute que, au retour d'exil, on va non seulement mettre en place la Torah, les cinq livres, mais vous étiez en droit de me dire, et le reste de la Bible. Ben, le reste de la Bible aussi, mais on l'a déjà. On a déjà bien mis en forme en exil les grands textes du premier Isaïe. La suite d'Isaïe s'est écrite dans l'exil et continue à s'écrire, c'est une école. On a les textes de Jérémie que les scribes du Deutéronome continuent à travailler. On a aussi Ézéchiel, ce prophète prêtre qui a écrit pendant l'exil. On a les grands prophètes, mais on a les vieux prophètes, Osée, Amos, etc. On a des psaumes, mais on n'a pas fini d'écrire le livre. On a des proverbes, mais ils vont s'y ajouter des collections. Et ce qu'on est en train de ramener aussi, c'est le livre de Job, essentiel, parce que la tradition, notamment des deutéronomistes et même des prêtres, était quand même beaucoup liée à l'idée de rétribution. Si nous sommes partis en exil, c'est que nous avions péché. Dieu nous a punis. Bon, Dieu pardonne toujours et renouvelle son alliance. Mais l'idée quand même que le malheur est lié au péché commis, et est un châtiment, est très présente. Vous n'avez qu'à lire les livres de Samuel et des Rois, qui sont des livres deutéronomistes, c'est constant, c'est constant. Or, il y a un livre qu'on ramène d'exil et qui va dire très fort le contraire, c'est le livre de Job. Non, il y a du malheur innocent. La théologie de la rétribution, ça ne marche pas. Et Jésus de Nazareth reprendra ça. Ni lui, ni ses parents n'ont péché, dit-il au sujet de l'aveugle né, dont les autres disent, mais qu'a-t-il fait pour être dans cet état, lui ou ses parents, parce que le péché, c'est héréditaire. Et Jésus casse en disant non. Or, depuis longtemps, la tradition juive, dans une de ses parties, et c'est toujours l'idée d'un dialogue entre des positions différentes, la tradition juive a dit non avec le livre de Job. Voilà. Et ça, c'est vraiment le retour d'exil qui le met définitivement en place. L'exil n'était pas nécessairement une punition. Il y a aussi des lignes du malheur innocent. Il faut le garder en mémoire. Et puis, il y a des prophètes qui continuent à écrire pendant un certain temps, probablement jusqu'à la fin du 5e siècle. Et ces prophètes, eh bien, de plus en plus, Puisqu'on est sous l'Empire perse, qui a plus de royauté, ils n'attendent plus un roi, ils ne sont plus en débat avec un roi, mais ils attendent de plus en plus ce que déjà les anciens prophètes annonçaient, le jour du Seigneur. Mais le jour du Seigneur ne sera plus un jour de châtiment, puisque quand même on est beaucoup laissé tomber de la théologie de la rétribution. Le jour du Seigneur sera la venue de Dieu lui-même. Le prophète Malachie, le dernier des prophètes, se termine par « Voici que j'envoie mon messager devant ta face pour préparer tes chemins. Il fera revenir le cœur des fils vers leur père et des pères vers leurs fils. » Alors maintenant, vous vous déplacez, ça c'est écrit vers, on n'a pas de date, on va dire 400 avant Jésus-Christ. Vous vous déplacez jusqu'à l'évangile de Luc, on va dire 80 après Jésus-Christ. Et l'évangile de Luc s'ouvre avec le prêtre Zacharie dans le temple de Jérusalem, à qui l'ange vient annoncer qu'il aura un fils, et ce fils préparera les chemins du Seigneur, et il fera revenir les cœurs des fils vers leur père et des pères vers leur fils. Ce fils sera, évidemment je commente, il sera le messager qu'annonçait Malachie, que Dieu envoie devant lui pour préparer ses chemins. Vous voyez le lien étroit et combien le Nouveau Testament va se greffer sur l'Ancien. D'ailleurs, on a un grand manuscrit de l'ensemble des deux testaments en grec, ancien et nouveau, au IVe siècle, dont l'Ancien Testament se termine par le livre de Malachie. Et après, on ouvre le Nouveau Testament parce que, voilà, l'un conduit à l'autre, si on le lit comme ça. En plus, on considère dans la tradition juive qu'à la fin du IVe siècle, avec Malachie, la prophétie s'interrompt, les cieux se ferment. On a dans le livre, les derniers écrits du livre d'Isaïe, « Ah, si tu ouvrais les cieux et si tu descendais !» Eh bien, le Nouveau Testament commence dans les quatre évangiles, dans les trois premiers en tout cas, par les cieux qui s'ouvrent et le baptême de Jésus. À nouveau, le lien entre le ciel et la terre va être renoué. Dieu à nouveau envoie ses prophètes et son fils. Voilà. Je m'arrête 2 minutes pour vous demander s'il y a des questions de compréhension. On va un peu vite, vous voyez bien que je galope, mais c'est pour vous donner un tableau d'ensemble, puisqu'il faut arriver quand même au Nouveau Testament, qui est l'objet de notre journée. Alors, est-ce qu'on a des personnes qui souhaiteraient poser une question? Dans ce cas-là, vous ouvrez votre micro, vous me posez la question et je vous réponds ou non. Ça va?
Oui, bonjour. J'ai une question. Au IVe siècle, c'est l'arrivée des Grecs.
Pas encore, on va le voir tout de suite.
C'est d'accord. Et il y a un événement qui fait que la prophétie s'interrompt ou c'est...
Je ne sais pas. Je crois qu'on
D'accord.
ne sait pas parce
Non,
que
non, c'est...
vous voulez.
Comme vous
Il y
avez fait de
a.
l'histoire, j'ai...
Non, mais c'est une histoire. L'histoire est très. Enfin, on a des difficultés avec l'histoire de ces siècles-là. Hein. Le passage de l'Empire perse à l'Empire grec, avec Alexandre après, c'est très documenté. Mais avant, la fin de l'Empire perse, ça ne l'est pas très. Notamment autour de ce monde juif qui est tout petit, hein, par rapport à l'Empire perse, vous avez vu. La tradition de la prophétie qui s'interrompt, elle va être après coup. Elle n'est pas sur place. On ne dit pas sur place la prophétie s'interrompt. C'est quelques siècles après la tradition juive qui dira la prophétie s'est interrompue. Ce qui le montre, c'est que à partir du IIIe siècle, va apparaître un nouveau courant qui est le courant apocalyptique, avec sous diverses formes, et nous on le connaît bien par l'apocalypse de Jean, mais il y en a des tas d'apocalypses juives et même d'apocalypse judéo-chrétienne. Et le courant apocalyptique, c'est une façon de dire, et on va le rencontrer là tout de suite avec l'histoire que je vais vous raconter, donc c'est bien qu'on en parle, c'est une façon de dire, on ne peut plus espérer un retour du Seigneur comme l'annonçaient les prophètes dans le cadre de l'histoire. Voilà. Courant apocalyptique, c'est un courant qui a perdu confiance en l'histoire. Et en le fait que l'histoire, Dieu va intervenir dans l'histoire. Ce qu'il met en place, c'est le fait que Dieu parle à quelques-uns fait des fois des visions à quelques-uns, ils s'appellent des voyants, ils s'appellent plus des prophètes, et leur montre comment va se dérouler la fin des temps, qui est une vraiment la fin de l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est plus dans l'histoire, on sort de l'histoire. L'histoire est finie. L'histoire est finie et Dieu fera descendre du ciel la Jérusalem céleste. C'est le scénario de l'Apocalypse de Jean, hein? Mais relu autrement. Mais c'est comme ça, l'histoire va se terminer parce qu'on ne peut plus rien espérer de l'histoire. Elle se terminera dans des catastrophes, d'où le mot, d'où ce qui est devenu le mot Apocalypse. Mais en réalité, le mot Apocalypse, il ne vise pas ça. Il vise la révélation finale, qui est le fait que à ce moment-là, s'établira le royaume de Dieu qui est tout autre. Ça va? Et voyez, on voit bien qu'autour du IIIe siècle, le courant prophétique s'éteint et c'est ce courant-là qui prend le dessus. Et après, ça sera relu en la prophétie a été interrompue. Ça va? Alors, puisque j'ai dit que ça embrayait sur la suite, maintenant, on va avancer vers ce monde grec que vous nous annon dont vous nous avez parlé. Je reviens un tout petit peu en arrière pour rappeler que dans ces 500 dernières années, sauf un petit moment qu'on va identifier qui n'a pas été le plus heureux, les Juifs, dans la Judée et Galilée, dans le pays juif, qui n'a pas d'ailleurs de nom précis, vivent sous la domination des grands empires. On est toujours dans un pays occupé. Et Jésus naîtra dans un pays occupé, hein, sous la botte romaine. L'empire perse va durer 200 ans. Et il sera un moment où l'autonomie politique est assez grande, encore que les Perses ont toujours un œil, ils veulent simplement tirer l'impôt, les Perses. Et pas de révolte. Mais où il y aura une réelle tolérance religieuse, d'où s'est passé tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Mais, et c'est là où on arrive à vos Grecs, en 333, Alexandre le Grand, fils de Philippe de Macédoine, donc un Macédonien, peut-être pas un Grec, en tout cas, entreprend cette épopée extraordinaire qui va le mener jusqu'aux limites de l'Inde, en passant d'ailleurs par l'Égypte. Il va vraiment faire la razzia sur l'Empire grec et installer partout, ben quoi, la civilisation grecque. Alors, une carte. Une carte pour ça, et j'espère que vous allez la voir. Voilà. Elle est trop petite. J'aurais voulu la mettre en grand, mais j'y arrive pas. Ce qui m'intéresse dans cette carte, et ce que vous pouvez voir, excusez la dimension, c'est le jeu des couleurs. Elle est très bien faite. C'est l'ensemble de tout ce qui est coloré et qui n'est pas en rose pâle, c'est l'Empire d'Alexandre. Vous voyez l'extension? C'est gigantesque. Ça va depuis la Macédoine, la côte ouest de la Grèce aussi. Ça monte autour de la mer Noire et puis ça traverse toute la Turquie, ce qui sont actuellement l'Irak, l'Iran, etc., l'Afghanistan, et ça va jusqu'aux portes de l'Inde. Au sud, ça descend dans la Syrie actuelle. Le désert n'est pas intéressant à l'époque, il n'y a pas de pétrole. Et ça descend en Égypte, qui est toujours le pays convoité parce que c'est le grenier à blé. Voilà. Et vous voyez que ça remonte aussi sur la côte méditerranéenne. Tout ce que les Perses possédaient, Alexandre y va. Et cette épopée, c'est en 10 ans. En 10 ans, il parcourt tout ça. Un conquérant fabuleux, certainement un homme à la fois exceptionnel et avec une part évidente de folie. Bon, en tout cas, Alexandre est un conquérant, donc évidemment il détruit, mais Alexandre est aussi quelqu'un qui a été éduqué à la grecque, paraît-il, Aristote a été son précepteur, et donc porteur des idées civilisatrices des Grecs. La philosophie et le développement du corps vont de pair. Partout, 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 Alexandre fonde des villes grecques. On va les appeler hellénistiques. Il fonde partout des Alexandries. Il y en a partout des Alexandries, jusqu'aux confins de l'Inde. Voilà. Donc, il y a une espèce de volonté de partout d'instiller la civilisation grecque dans tous ces peuples, parce que partout, il y a donc des écoles de philosophie et des gymnases. On est grec par le corps et par l'esprit. Alexandre meurt au bout de 10 ans, 323, très court. Évidemment, ses généraux, parce qu'il n'est pas tout seul, se divisent son empire. Et il y a des guerres de partage compliquées. Je vous les épargne. Mais regardez les couleurs. Ce qui nous intéresse, nous, on est dans le petit triangle au bord de la Méditerranée qui est encadré de bleu et qui a du l'ocre, enfin du jaune à l'intérieur. Vous voyez le triangle? Alors, une énorme partie de l'Empire d'Alexandre et la partie, toute la partie est. Et ceux-là, qu'on appelle les Séleucides, mais laissez tomber, vont occuper pendant un certain temps le pays juif. Et c'est d'eux que vont venir les catastrophes. Parce que, au début, mais très peu de temps, au début, il y a un encadrement bleu, ça devait être l'apanage de celui des Ptolémées qui s'étaient emparés de l'Égypte. Or, sous la domination égyptienne, le monde juif vit pas mal. Les traditions juives vivent pas mal parce que les Égyptiens, quoique le souvenir soit celui de l'Exode et donc le souvenir de la maison de servitude, mais en réalité, les Égyptiens sont très peu intrusifs. Et les Ptolémées, les généraux d'Alexandre, le général Ptolémée et ses descendants, qui vont avoir ce pays pendant un petit moment, donc je vous ai dit tout de suite, je vous ai trop vite parlé de ceux de l'Est, des Séleucides, c'est d'abord ceux qui viennent d'Égypte qui, pendant un petit moment, occupent le pays. Pendant un petit moment, ça va bien sous leur gouvernement parce qu'ils laissent le pays libre, simplement, ils prélèvent des impôts. Mais très vite, ceux de l'Est, qu'on appelle donc les Séleucides, avec un certain nombre de rois qui s'appellent des Antiochus, ceux de l'Est veulent récupérer ce petit pays, parce que ce petit pays, c'est évidemment la voie de passage du commerce. On n'est pas très marin, et tout passe par là. Ici, c'est le désert, là, c'est la mer. Entre les deux, eh bien, le pays qui en partie est le pays juif et qui est le pays des affrontements constants. Et donc, un jour, les Égyptiens vont être battus par ceux de l'Est et du Nord, par les Séleucides, et le petit pays juif va tomber sous la domination de ce qu'on appelle les Séleucides. Voilà. Alors, ici, c'est résumé ce que je viens de dire. L'extension foudroyante de l'empire d'Alexandre, la mort d'Alexandre, la division de son empire, alors en plusieurs morceaux, je vous garde les deux gros, les rois Ptolémée en Égypte, ce qu'on appelle les Séleucides dans l'Asie. Et dès 202, donc au bout d'un petit siècle, la Judée appartient à ceux-là qui viennent de l'Asie mineure, les Séleucides, avec notamment un roi, Antiochus Épiphane IV, qui va mener une politique d'hellénisation forcenée. Qu'est-ce que ça veut dire? La politique d'hellénisation forcenée, ça veut dire qu'il impose partout le mode de vie grec, les dieux grecs, l'obligation pour les jeunes gens d'aller au lycée ou à l'école de philosophie et au gymnase d'apprendre les gymnastiques, les luttes, le développement du corps, mais au gymnase, chez les Grecs, on se bat tout nu. Les jeunes juifs à cette époque qui sont circoncis, ça se voit. Et à ce moment-là, on a chez ces jeunes juifs, assez fascinés pour certains par la proposition grecque, le livre de la sagesse le dira, cette fascination, par la proposition grecque de développement du corps et de l'esprit, par les dieux grecs qui sont quand même bien moins exigeants que le dieu d'Israël, on a un départ d'un certain nombre de jeunes gens de l'élite juive vers la culture grecque, abandonnant le dieu de leur père. Hellénisation forcenée parce qu'aussi cet Antiochus Épiphane décide d'installer quoi? La statue de Zeus ou dans le temple de Jérusalem. Alors ça, c'est la violation, le blasphème, la violation suprême. On en entendra parler dans les évangiles, des textes qu'on ne lit pas volontiers parce qu'ils sont trop compliqués dans les évangiles, mais enfin on les a quand même dans Marc, Matthieu et Luc. Les discours apocalyptiques, même s'ils ne le sont pas, de Jésus. Et c'est dit par exemple en Marc 13, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation installée là où il ne faut pas. Alors ça, c'est le style des apocalypses, c'est tout codé, faut comprendre. L'abomination de la désolation, c'est la statue du dieu grec. Là où il ne faut pas, c'est le temple de Jérusalem. Voilà. Et cette idée que le temple de Jérusalem est violé par l'introduction, évidemment, une statue d'idole, une statue de dieu étranger, c'est pas seulement une idée, ça a eu lieu en 160, enfin 167, 170, 167 avant Jésus-Christ sous Antiochus Épiphane. Ça aura lieu sous une autre forme par Pompée, mais c'est Pompée, il rentrera lui-même dans le temple, mais il ne mettra pas de statue. Mais ça aura lieu aussi, un peu après l'époque de Jésus, une tentative de Caligula. Voilà, il y aura plusieurs tentatives de cet ordre-là. On gardera toujours en souvenir le moment où, sous le roi grec Antiochus, il y a eu vraiment cette statue installée. Et là, à ce moment-là, un certain nombre de Juifs se sont révoltés. Une révolte qui est vraiment une révolte de guérilleros. Ils se retirent, et c'est de la résistance. Ils se retirent dans les collines, dans les montagnes, et ils attaquent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt le monde grec. Ils recrutent de plus en plus autour d'eux, au cœur de ce groupe. Il y a la famille des frères de Judas Maccabée, qu'on appelle Maccabée, attention, le mot n'est pas joli, mais ça veut dire le marteau. Judas le marteau, tellement il tape fort. Alors, une famille de nombreux frères, ça n'a rien à voir avec les sept frères qui sont dans le livre des Maccabées, de nombreux frères, avec le père Mattathias, qui autour d'eux organisent la résistance et surtout la révolte. Et une révolte qui devient tellement forte, qui se propage dans le pays, que finalement, les Grecs sont vaincus. Il y a des batailles, des coups de main, mais enfin, finalement, des batailles rangées, et en 3 ans, 3 ans et demi, hein, 167 et 164, le livre de Daniel dit 3 temps et la moitié d'un temps. Ça, c'est déjà aussi du langage apocalyptique. 3 temps et la moitié d'un temps, 3 ans et demi, ils arrivent à libérer Jérusalem et à libérer une bonne partie du pays. Donc, pour la première fois depuis longtemps, depuis 588, la Judée au moins et Jérusalem vont être entre les mains de familles ou de rois, parce qu'ils vont devenir rois juifs. Le temple est purifié. Et cette grande fête de la purification du temple en 164 avant Jésus-Christ est encore fêtée aujourd'hui, confondue avec une fête des Lumières, c'est Hanouka, que les Juifs fêtent quelques jours ou quelques semaines, suivant le calendrier, avant Noël, avant notre Noël. Vous avez tous entendu parler de Hanouka. Eh bien, ça se fête depuis 164 avant Jésus-Christ, d'année en année, la grande fête de la purification du temple, puisque le temple avait été souillé par la statue du dieu idole. C'est à ce moment-là que se développe un certain nombre d'idées qui prennent de plus en plus force et qui prennent de plus en plus forme. Et c'est à ce moment-là que le livre de Daniel, qui sous forme cryptée, avec des retours en arrière, déjà un langage apocalyptique qui raconte cette révolte, cette guerre des Maccabées, des frères Maccabées, la purification du temple, le livre de Daniel va affirmer que tous ces jeunes gens qui sont tombés morts pour leur foi, parce que dans la lutte avec les Grecs, il y a eu beaucoup de jeunes morts, eh bien, Dieu ne les abandonnera pas. Ça, on avait déjà dans l'idée. Déjà, les psalmistes avaient dit, tu n'abandonneras pas ton fidèle à la mort, etc. On avait l'idée que Dieu n'abandonnait pas les siens. Mais ça va prendre forme. Et le vocabulaire va être créé par Daniel. On le retrouve dans le livre d'Isaïe, un texte récent, au chapitre 26, avec une double expression, ils se réveilleront, ils se relèveront. Voilà. Tes morts se réveilleront, ceux qui dorment dans la poussière se relèveront, ils iront briller comme des étoiles. Il y a l'idée peut-être de rejoindre un ciel dans lequel serait Dieu, je ne sais pas. Mais c'est vraiment le début de cette foi en la résurrection au moins des justes. Hein, il n'y a pas l'idée de châtiment des impies, il y a l'idée de la résurrection des justes. Alors, qu'est-ce qui se passe à la même époque, avant de rentrer maintenant dans ce qui va se passer après 164, vous voyez qu'on s'approche de Jésus-Christ, un petit mot de ce qui s'est passé pendant les royaumes grecs. Pendant les royaumes grecs, donc entre 323 et 164, ça fait quand même du temps, Le judaïsme de la diaspora, là on a parlé de Jérusalem et de la Judée. Le judaïsme de la diaspora n'a pas chômé. Lui aussi s'est développé, a réfléchi, et surtout, en Égypte notamment, on assiste à la traduction de la Torah en grec. Initié probablement par le roi d'Égypte Ptolémée, qui est peut-être un homme intéressé aux diverses productions de son peuple, c'est surtout un homme qui veut connaître les lois de ceux qui sont sous sa domination, parce qu'il y a beaucoup de juifs en Égypte, et notamment à Alexandrie, où c'est peut-être un petit tiers de la population. Donc, sous la proposition, l'idée du roi grec Ptolémée, un Ptolémée, c'est Ptolémée VII celui-là, peu importe, les juifs d'Alexandrie vont traduire en grec les cinq livres de la Torah et on l'appellera du nom grec le Pentateuque. Parce qu'en grec, penté c'est cinq et takeu c'est les rouleaux. Le Pentateuchos, le rouleau, Pentateuque, les cinq rouleaux. On a donc quelque chose d'extraordinaire, c'est que ce texte hébreu qui avait été traduit oralement en araméen, le Targum, devient maintenant la Bible grecque d'une partie du judaïsme de la diaspora. Les prophètes aussi sont traduits. D'abord Isaïe, le grand prophète. Vers 250, Isaïe est traduit. Les psaumes aussi. Et puis petit à petit, jusqu'au livre de Daniel, tous ces textes seront traduits. Et un certain nombre de textes vont être ajoutés, écrits eux en grec. Les deux livres qui racontent de façon très différente les guerres des frères Maccabées, de Judas Maccabée contre les Grecs, les deux livres dits des martyrs d'Israël, qui racontent les martyrs de ceux qui ont vécu la guerre de 167 à 164. Voilà, donc, en Judée-Jérusalem, on avance vers une libération, un royaume juif. Ailleurs, on avance vers une connaissance de la loi et des textes juifs et utilisation de la loi et des textes juifs dans la langue grecque, qui est très importante. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous avançons à partir du moment où, à Jérusalem, et là je reste à Jérusalem, les frères et descendants de Judas Maccabée ont pris le pouvoir. Eh bien, ça va être un énorme espoir déçu. Un énorme espoir déçu. Ils vont créer une dynastie. Ils vont créer une dynastie, donc ça pourrait être le retour de la royauté, le roi enfin envoyé par Dieu. Eh bien, pas du tout. Ce sont des gens qui s'installent là et qui sont grisés par leur pouvoir et qui vont continuer leurs habitudes de guerriers ross en s'entretuant entre eux. Et il va y avoir, pendant près d'un siècle, une succession de prises de pouvoir par cette famille de Judas Maccabée, des coups d'État, des assassinats, des rois qui se succèdent. Certains permettront des périodes de paix, d'autres ne feront que passer, et puis il y en aura un en 152 qui va faire une espèce de coup de force, parce que non seulement, et c'est très vite, vous voyez, après 164, non seulement il est nommé roi, mais il va prendre le titre de grand prêtre. Et ça va provoquer à nouveau des scissions très fortes. À niveau des scissions très fortes, un groupe très important ou important de fidèles juifs, de juifs croyants au Dieu d'Israël et très scrupuleux des rites, etc., va faire vraiment sécession. Ils vont partir s'installer dans le désert, considérant que, avec ce grand prêtre, le temple est souillé. À nouveau. C'est à nouveau, le temple est souillé, on ne reconnaît plus l'autorité des grands prêtres, on ne reconnaît plus le culte, on ne reconnaît plus le temple et on va fonder une nouvelle communauté dans le désert, ça donnera les Esséniens. Voilà. Dont nous n'entendons pas parler dans le Nouveau Testament, mais enfin, ils ne sont peut-être pas si loin. D'autres de ces fidèles, scandalisés par l'attitude de ces rois et par le coup de force, vont aussi se séparer, mais autrement, en restant sur place et en s'éloignant largement ou en partie du culte, mais en gardant les rites identitaires et surtout la volonté de ramener toute la population sous la loi de Dieu. ce sont ceux qu'on appellera Pérouchim, les séparés, les pharisiens. Et cela, vous en entendrez parler dans le Nouveau Testament, Jésus sera très proche des pharisiens. Ces groupes, donc, apparaissent, voyez, environ 140, 150 ans avant notre ère. On vit tant bien que mal sous la domination de ces rois juifs, jusqu'au jour où il y a une nouvelle grande puissance qui trouve ça très intéressant, ces disputes internes, parce que ça affaiblit considérablement le pouvoir et ça permet peut-être d'occuper le pays, c'est la puissance romaine. Voilà. Les Romains, à partir d'un certain moment, la République romaine, on est encore dans la République romaine, mais elle avance vers l'Empire, la République romaine va jouer des conflits internes entre les rois juifs et s'approcher de Jérusalem jusqu'à ce qu'en 63, Pompée, le général romain que vous connaissez, entre dans Jérusalem, prenne la ville et, souillure, entre dans le temple. Alors il y a même des légendes qui disent qu'il est entré à cheval. Bon, je sais pas. Ça, c'est l'abomination de la désolation. Ce que je vous raconte là pour finir est un peu compliqué, mais retenez l'idée. Les Romains s'arrangent pour se mettre bien avec non pas les rois juifs, mais avec l'un ou l'autre de leurs généraux, qu'ils mettent à leurs bottes et à qui ils font miroiter le fait que ben, si la Judée devient province romaine, eux pourraient devenir rois de ce pays sous tutelle romaine. Et donc on a un général juif antipater. Alors il n'est vraiment pas complètement juif, il vient d'un pays à côté, l'Idumée, qui s'est converti au judaïsme. Enfin bon, il est assimilé. Antipater va faire alliance avec Rome et en fait écarter le roi juif jusqu'au jour où celui-là sera assassiné, bien sûr. On arrive, après donc 30 ans de bagarre, en 37 avant Jésus-Christ, où le fils de ce général, Hérode, Hérode le Grand, il va s'appeler le Grand parce qu'il va régner très longtemps, quelques 50 ans, donc 30, 30, 35 ans, Hérode le Grand est arrivé à soumettre toutes les révoltes qui avaient lieu un peu partout dans le pays, à soumettre une dernière révolte de Jérusalem et à se faire nommer par les Romains roi des Juifs. Voilà, Hérode le Grand, roi des Juifs. Hérode, ça c'est en 37, à partir de 26 ou de 20 avant Jésus-Christ. Alors Hérode, c'est un homme compliqué, c'est un tyran, c'est un homme cruel, il a une dizaine de femmes, une douzaine ou une quinzaine de fils, de toute façon, il en élimine un certain nombre au fur et à mesure, les femmes et les fils, bon. Et c'est un homme mais c'est un homme en même temps qui a le sens de la grandeur et qui veut re faire renaître la grandeur de ce royaume juif. Et donc, puisqu'il est devenu juif, il fait élever un temple magnifique pour le Dieu d'Israël. Voilà. C'est la reconstruction du temple. C'est la reconstruction du temple en 20 avant Jésus-Christ. Et ce temple nous est décrit par un écrivain comme Flavius Josèphe à la fin du 1er siècle, comme un temple éblouissant, couvert de plaques de marbre, avec des dorures, des rideaux qui sont tout tissés de fils d'or. Enfin, le temple d'Hérode était une merveille à la plus grande gloire du Dieu d'Israël et évidemment d'Hérode le Grand. Ce temple, vous en entendez parler dans le Nouveau Testament, puisque les disciples de Jésus le trouve magnifique. Vois, Seigneur, ces belles pierres, vois comme c'est beau, etc. Ce temple qui atteint donc son point culminant, il est à peu près terminé 40 ans après, en 26 après Jésus-Christ. Jésus et ses disciples le contemplent. Ce temple ne va pas durer longtemps, puisque en 70 après Jésus-Christ, les Romains le brûleront. Donc une merveille, mais éphémère. Voilà, nous arrivons à la mort d'Hérode le Grand en 4 avant Jésus-Christ. Avec, pour terminer, un petit clin d'œil, les évangiles nous racontent, Luc et Matthieu, avec des sources probablement différentes, tous les deux, que Jésus est né sous Hérode le Grand. Ça fait un petit problème, parce que ça fait naître Jésus entre 7 et 4 avant Jésus-Christ. Jésus, à cette époque-là, on ne comptait pas à partir de Jésus-Christ, évidemment, et le décalage entre la réalité historique, qui est que Jésus est né sous Hérode le Grand, et qu'Hérode le Grand est mort en 4 avant Le calendrier officiel, aujourd'hui adopté, depuis longtemps adopté dans le monde romain, avec la naissance de, enfin, avec, qui compte à partir de l'an 1, la naissance de Jésus, ce décalage est dû à un moine du 5e siècle qui avait fait une erreur en comptant le temps à partir du début de l'Empire de la République romaine, 734 avant Jésus-Christ. Bon, on va lui pardonner et accepter que ce soit drôle. Voilà. Je m'arrête là pour ce parcours historique qui nous conduit donc quand même jusqu'à la naissance de Jésus de Nazareth et qui me fait achever mon propos de la matinée en vous donnant la parole. Voilà, je vais fermer cette horrible chose. Je vous promets d'essayer de cet après-midi de vous rendre un PowerPoint propre et j'écoute vos questions. Nous avons un bon petit moment, si vous voulez bien, de questions sur tout ce que j'ai raconté un peu vite. Mais vous voyez que c'est des cadres historiques qui vous montrent à quel point tout ce qui a été vécu dans ces 500 dernières années va informer, au fond, le Nouveau Testament.
D'où vient l'apparition du livre de la sagesse à ce moment-là?
Le livre de la sagesse est un livre alexandrin, écrit en grec, qu'on ne sait pas exactement dater. On parle de 50 à 30 avant Jésus-Christ, certains même le mettent un peu plus tard. C'est un livre extrêmement intéressant, d'abord c'est un beau livre, extrêmement intéressant parce qu'il témoigne à nouveau de l'attirance et même du départ d'un certain nombre de jeunes juifs pour les propositions philosophiques grecques. On voit bien que ce livre se bat contre ces juifs qui sont partis vers quoi? Ben, l'épicurisme, essentiellement. Un peu le stoïcisme, mais il n'est plus beaucoup à la mode. Ce qui est à la mode à l'époque, c'est les épicuriens, c'est les sceptiques. Voilà. C'est donc des gens qui acceptent une divinité lointaine, mais qui ne s'intéressent absolument pas aux hommes, qui n'ont pas. Les épicuriens, ce n'est pas des gens qui profitent de la vie à fond, hein, mais c'est des gens qui, par rapport à la tradition juive, refusent un Dieu qui s'intéresse aux hommes et qui, au fond, refuse toute idée, alors là, il renonce à l'idée pharisienne d'une vie après la mort, d'une vie auprès de Dieu, etc. Ça, la mort arrête tout, et donc le livre de la sagesse va s'en prendre à eux en leur donnant la parole d'abord et en leur disant, mais voyez, vous avez fait un pacte avec la mort, et si vous avez fait un pacte avec la mort, eh bien, vous mourrez. Et ensuite, il y a toute une relecture de l'Exode dans ce livre de la sagesse en montrant que c'est l'action de Dieu dans l'histoire qui, au fond, permet d'espérer. Donc c'est un beau livre grec. Moi, je pense qu'un homme comme Paul le connaissait parce qu'il y a des passages parallèles et on voit bien que ça répond bien à ce souci du monde juif de se situer et de se démarquer et d'avoir les éléments pour parler aux propositions grecques. C'est un livre qui combat beaucoup l'idolâtrie, etc.
J'aurais peut-être une petite question sur la croyance en la résurrection
Oui?
des différents prophètes. Est-ce que les Juifs étaient unis sur cette
Pas du
position?
tout. Pas du tout. C'est une excellente question. Les Juifs n'étaient pas unis, et non seulement ils ne l'étaient pas, mais ils sont restés longtemps en désaccord. Tout ce qui tourne autour des grands prêtres, de là, du culte à Jérusalem et à l'époque de Jésus, ces grands prêtres qu'on va appeler les Sadducéens, le Nouveau Testament nous le dit, Luc nous le dit dans les Actes, ceux qui ne croient pas à la résurrection des morts. Pourquoi? Parce qu'ils s'en tiennent pour leurs écritures aux cinq livres de la Torah. Or, dans les cinq livres de la Torah, il n'y a pas de résurrection des morts. Il y a bien le personnage de Moïse que Dieu a enterré, et on ne sait pas où ils sont. Voilà, il a rejoint Dieu et c'est Dieu qui l'a enterré, et on ne sait pas où est son tombeau, mais il n'en est pas question. Et les grands prêtres juifs vont tenir là-dessus jusqu'au bout. C'est le mouvement pharisien qui a insisté sur cette idée d'une résurrection des morts, récompense finale, etc. Les représentations sont au début extrêmement prudente. Hein. Vous voyez, ils se réveilleront, ils se relèveront. C'est ce vocabulaire qu'on va retrouver dans le Nouveau Testament. Hein. Ils se relèveront, ils se réveilleront. Elles deviendront de moins en moins prudentes avec les mouvements apocalyptiques. Ils se mettront à décrire la fin des temps, le Seigneur qui vient, etc. Quand elles sont prudentes, les auteurs du Nouveau Testament et Jésus de Nazareth lui-même s'inscrivent complètement dans cette foi pharisienne. C'est la foi pharisienne qui permet à Paul de dire, si s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Jésus n'est pas ressuscité. Ils s'inscrivent dans la foi pharisienne et c'est sur elle qu'ils tiennent. Alors, avec, je vous dis, des représentations qui ne vont se diversifier et se figer, enfin, c'est toujours désastreux les représentations de l'après-mort, hein, beaucoup plus tard. Mais l'affirmation, elle est là très tôt, et moi je pense même qu'elle apparaît avec le mouvement pharisien vers 150, vers 160, mais il y avait déjà une espèce de recherche dans ce genre-là, alors peut-être pas de l'ordre de la résurrection, mais l'idée est déjà présente dans des psaumes beaucoup plus anciens. En gros, Dieu n'abandonne pas ses fidèles. Voilà. En fait, c'est ça l'idée. L'idée qui fait tenir cette affirmation plus fortement, c'est Dieu n'abandonne pas les siens, parce que par définition, ça vous le retrouvez dans le Nouveau Testament chez Paul, Dieu est fidélité. Dieu, c'est le fidèle, celui qui tient. Donc, il ne peut pas vous abandonner. Et on voit bien que c'est cette idée qui a travaillé longtemps et qui prend forme diverse après. Ben, je ne sais pas si ça répond à votre question.
Si. Moi, j'aimerais poursuivre là-dessus. Ça veut dire que pendant tout l'Ancien Testament, Dieu n'abandonnait pas son peuple, mais que personne n'avait imaginé la résurrection.
Non, je crois que enfin, pendant tout. Vous avez une trace chez Isaïe 26, vous avez une trace chez Daniel. Alors, on avait quand même imaginé des choses. Non, la résurrection au sens que les morts se relèvent, non. Mais on avait imaginé des choses. Vous avez dit dans le psalmiste, Dieu n'abandonne pas. On avait un homme comme Moïse, qui quand même représente Israël. Moïse qui est bien mort, mais nul ne sait où est son tombeau et c'est Dieu qui l'enterre, en hein, Deutéronome 34. Et vous savez que dans le Nouveau Testament, Moïse revient. Les évangiles vous racontent Jésus qui paraît transfiguré, donc dans la résurrection, avec Moïse et Élie qui l'entourent. Donc voilà, Moïse reste vivant. Et puis, il y a dans les livres des rois, dans le deuxième livre des rois, le prophète Élie. Le prophète Élie qui, lui, n'est pas mort. Il a été enlevé. Dans cette espèce de char qui monte vers Dieu, ce tourbillon, Élie est enlevé et son successeur Élisée lui court après pour attraper le manteau d'Élie, hein, qu'Élie lui jette. Mais Élie est enlevé et la tradition juive a toujours porté que Élie, comme probablement un patriarche Hénoc, parce qu'il y a le même mot pour le patriarche Hénoc, mais là c'est deux mots, il a été enlevé. Le prophète Élie, ce très ancien prophète dont on n'a aucun écrit, hein, mais la tradition juive veut qu'il n'est pas mort, il a été enlevé auprès de Dieu et Élie reviendra. Et Élie doit même revenir pour assister les mourants, puisque lorsque Jésus est en croix et qu'il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné », comme en araméen, Élie ou Élohi, ça ressemble à Élie, ceux qui se moquent disent « Attendons, on va voir si Élie vient l'aider ». Voilà. Il y a l'idée d'un retour possible d'Élie. Donc vous voyez, il y a des choses qu'il cherche, mais pas plus. Sinon, il y a une représentation qui est très présente, c'est le souffle de vie, l'homme sous une forme de fantôme errant dans le Shéol. Avec dans les psaumes aussi, ces affirmations très fortes, c'est un moyen d'ailleurs de faire chantage, de faire pression sur Dieu. Au Shéol, nul n'invoque ton nom. Parmi les morts, qui peut t'invoquer? Donc ne me lâche pas, parce que sinon, il n'y a plus personne pour te célébrer. Vous voyez, on a souvent ça dans les psaumes. Hein? Au pays des morts, qui te rend grâce? Alors ne m'y envoie pas. Voilà. Très proche de l'Hadès grec et sur laquelle on ne s'attarde pas parce que c'est un monde triste et sans relief.
Il me semble qu'il y a une certaine confusion sur la notion de résurrection. On en parle comme un retour à la vie et Jésus, on conteste beaucoup les apparitions du Christ ressuscité et en fait la résurrection de Jésus, c'est son entrée dans la gloire. ce n'est pas un retour à la vie.
Ah ben, ce n'est pas un retour à cette vie-là.
Oui.
Certainement pas. Donc on voit bien que c'est, comment dire, la résurrection de Jésus, elle s'inscrit aussi dans ce mouvement apocalyptique dont je vous parlais, c'est-à-dire que ce monde se termine et pour chacun, il se termine à sa mort, hein, mais un autre monde, Dieu fait descendre, fait venir, fait, voilà, Dieu fait naître une création nouvelle. Et donc, la résurrection, c'est bien la création nouvelle. Et pour Paul, elle est même déjà commencée, puisque Jésus est déjà, entre guillemets, ressuscité. C'est bien une autre forme de vie qui est effectivement, alors on peut le dire dans la vie de la gloire de Dieu, la transfiguration. On va en parler cet après-midi, si vous voulez bien. Je vous proposerai quelque chose là-dessus cet après-midi. Est-ce qu'il y a d'autres idées?
La théologie de la rétribution, il me semble qu'elle a été reprise par l'Église,
Ah.
puisque nous parlons de l'enfer et du paradis.
Oui, Samir, elle n'est pas. Enfin, moi, je dirais la théologie de l'attribution, c'est quelque chose de profondément humain. Ne serait-ce que dans les phrases idiotes qu'on prononce, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu?
Oui.
Ah, tu n'as rien fait du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je dis que c'est quelque chose qui accompagne l'être humain. Pourquoi je suis malheureux? Est-ce que je suis puni? Vous voyez? Et effectivement, le livre de Job prend en charge cette question, la tourne dans tous les sens et dit non, et Jésus dira non. Voilà. Dites-moi, est-ce que vous ne voulez pas aller déjeuner? Sauf s'il y a des questions urgentes. Je vous propose une chose.
Encore une question.
Oui?
Est-ce que, alors, c'est peut-être un peu exagéré, mais est-ce que le fait que la civilisation grecque, qui voit les morts errer dans un royaume et donc continuer d'exister, n'a pas influencé cette idée de résurrection?
Enfin, je ne sais pas. On voit bien que le Shéol des Hébreux, des Israélites, le Shéol, c'est pas loin de l'Hadès grec. Alors dire qu'il y a une influence, j'en sais rien. Peut-être aussi c'est une façon assez habituelle pour les hommes de dire il reste quelque chose du mort, mais d'abord il faut l'enterrer bien pour qu'il se calme. Voilà. Non, ce qui est grec et qui a influencé, mais ça on peut en reparler, l'idée de résurrection, c'est l'immortalité platonicienne. Ça oui. Ça a beaucoup, mais c'est pas pareil. Mais quand même, ça a été très présent dans ensuite l'histoire du christianisme. Voilà. Alors, je vous propose. Arrêtez l'enregistrement.
Dommage.
Comment
Il est
j'arrête
11 heures.
l'enregistrement? Oui, j'arrête l'enregistrement. J'y arrive pas.
Je peux poser une question?
Posez une question.
Non,
Posez une
pas.
question.